Voilà, c'est bon. Ev Tom les Koulam. Voilà, alors, petit changement de jour, tout va bien. On continue dans notre étude de la réalisation des Nevuot, de la prophétie qui se réalise. Et nous sommes arrivés, et oui, aujourd'hui, c'est notre 18e rendez-vous de la prophétie qui se réalise. Et voilà, il nous reste jusqu'à la fin de l'année plus énormément de cours. Et donc, eh bien, ça, parce que on a pratiquement, on n'a pas encore vraiment fini, mais on a pratiquement terminé toutes les prophéties du Tanakh qui se sont déjà réalisées. Évidemment, il y en a encore plein qui restent à réaliser, bien évidemment, mais dans ce cours-là, eh bien, on aura essayé de montrer ce qui s'est déjà réalisé. Et donc aujourd'hui, après avoir parlé en 3 épisodes de Milchemet, Gog ou Magog, eh bien, je voudrais revenir aujourd'hui sur une névoie très compliquée qui est en plusieurs étapes et qui en fait est la névoie de qu'est-ce qui se passe après qu'on ait réglé les problèmes, j'allais dire les problèmes physiques avec l'envahisseur, avec l'extérieur, Milchemet, Gog ou Magog. Une fois qu'il n'y a plus de combat à mener, eh bien, il nous reste une chose à faire. Puisque à la fin de Gog ou Magog, nous avions dit que l'idéal, c'était « Veit gadilti, veit kadishti, leine amim rabim » que Dieu doit être reconnu aux yeux du monde. Eh bien, je dis très bien, mais le fait que Dieu soit reconnu aux yeux du monde, est-ce que ça se fait pouf, comme ça? Ou alors, est-ce que ça demande, eh bien, une implication de l'homme, du peuple juif? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a un verset, alors c'est de la névoie, mais là, pour le coup, c'est une névoie qui s'est évidemment déjà passée à l'époque de Avraham Avinu. Dans le livre de Bereshit, on nous dit la chose suivante. Avraham vient d'arriver en Eretz Israël. Il vient d'arriver en Israël et directement, il s'en va. Il s'en va directement. Nous sommes donc au chapitre 12 du livre de Bereshit. C'est un verset que vous connaissez par cœur. Donc, je ne vais même pas vous faire l'affront de vous demander si vous le connaissez, car je sais que vous le connaissez. Dans le chapitre 12 du livre de Bereshit, Abraham vient d'arriver. On a eu le fameux Lech Lecha. Ken Lech Lecha, Me'artzecha, Me'latecha, tout ça, ça on connaît. Et là, on nous dit... ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ là à ce moment-là Dieu se révèle à lui ויראה השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת tout va bien seulement après on nous dit ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה on dit que Abraham est parti et où est-ce qu'il est parti? Eh bien, il est parti au sud. Où est-il parti? Il est parti au sud. C'est bien beau tout ça, mais c'est où? Où a-t-il décidé d'aller? Alors, remettons-nous un tout petit peu dans le contexte. Abraham est à l'endroit de Shrem et il décide d'aller au sud. Où est-ce qu'il va bien vouloir aller? Eh bien, Rashi nous dit qu'il est passé à côté de Jérusalem. Mais il ne s'est pas arrêté à Jérusalem. Il va beaucoup plus au sud. Alors, quand on parle du sud, il y en a qui pensent le désert du Negev. Peut-être qu'il a voulu faire un petit tour à Yerucham, ou alors à Beersheba, ou alors à Dimona. Peut-être même qu'il a voulu aller voir les dauphins à Eilat. Sauf que non. Où Abraham décide d'aller? Eh bien, il décide d'aller... Quand on parle du sud d'Eretz Israël, c'est évident que ça fait référence à l'Égypte. Et c'est pourquoi le verset suivant nous dit « Vayirahav ba'aretz ». Il y a une famine en Eretz Israël. « Vayered Avraham Mitzrayma ». Ah ben là, comme ça, c'est clair. Avraham est descendu en Égypte. « Lagour sham » pour y résider de manière temporaire. « Lama ». Pourquoi est-ce qu'Avraham est parti en Égypte? D'après ce que je viens de lire dans le verset, ben c'est facile, parce qu'il y avait une famine. En Égypte, il n'y a pas de famine. Pourquoi il n'y a pas de famine en Égypte? Ben parce qu'il y a le Nil. le Nil, il est en crue tous les ans. Il n'y a pas besoin d'avoir la pluie du ciel. Donc, il n'y a pas de famine en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y aura la famine en Égypte du temps de Yosef, ça sera si particulier à tel point que les Égyptiens et Pharaon n'arrivent même pas à l'envisager. Donc, Abraham arrive en Égypte parce qu'il y a la famine. Mais regardez ce que me dit le verset. Je reprends le verset. Le verset Yud du chapitre Yud-Bet dans le livre de Bereshit. Vayirav be'aretz vayered Abraham Mitzrayim ala gur sham ki kaved ara'av be'aretz. Je traduis. Il y a eu une famine dans la terre. Donc Abraham est descendu en Égypte parce qu'il y avait une famine dans la terre. Est-ce que c'est pas un petit peu redondant? On me dit, il y a une famine, donc il est descendu parce qu'il y avait une famine. Ben, ça va, j'ai bien compris. Et en fait, de quoi parle-t-on ici? Ici, on nous met en valeur une idée extrêmement profonde. Naron, il y a eu une famine physique en Eretz Kenan qui a poussé Abraham à aller en Égypte parce que là-bas, il n'y avait pas la famine. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, il nous dévoile et la Torah nous dévoile pourquoi il avait à la base choisi de partir en Égypte. Ki kaved ara'av ba'aretz be'ezeretz be'eretz Mitzrayim. Il est parti de Canaan parce qu'il y avait une famine en Canaan pour arriver en Égypte là où il y avait une autre famine. Oui, en Eretz Canaan, il y avait une famine de pain et d'eau. En Eretz Mitzrayim, il y a de l'eau, il y a du pain. Avalesh Ra'av Acher. Il y a une autre famine. Quelle est cette fameuse autre famine? Eh bien, cette autre famine, ça va être ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Car ce que Abraham a vécu là-bas en Égypte, eh bien, c'est la névoie que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui même, en 2021. Et on a promis qu'on ne ferait pas d'allusion politique durant ce cours. J'imagine que chacun a déjà son avis au niveau de notre nouveau gouvernement. On n'a plus qu'à lui souhaiter la bonne chance et en espérant qu'ils n'auront pas assez de temps pour détruire l'État d'Israël en entier. Et peut-être, qui sait ? Peut-être que ce sera aussi un grand Kiddush Hashem d'avoir le représentant du peuple juif avec une kippa sur la tête. On l'oublie, hein, mais c'est pas rien. Mais on a dit on parle pas politique, nous on parle névoa. Et donc, quelle est cette fameuse rave? Eh bien les amis, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous amène au livre de Amos. Amos, dans les très assar, dans les fameux 12 prophètes. Non, on va pas les appeler les petits prophètes, c'est pas sympa pour eux. Ils sont pas plus petits que qui que ce soit. Amos, au chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe là-bas, le père Gimel, le sefer Amos? Shimu et davar azeh asher diber Hashem alechem bene Israël. Écoutez bien, bene Israël, ce que Dieu a à vous dire. Al kol ha-mishpacha asher eliti me'eretz Mitzrayim lemor. Aha. Dieu nous considère comme étant une mishpacha. On est bien une mishpacha. Quelle est la première fois où on demande à quelqu'un d'avoir un rôle par rapport à une famille? Moi, je croyais que Am Israël, c'était un peuple. Goy, Am. Ici, on nous dit Mishpacha. Je me rappelle, quand je lis la fin de la paracha de Noach, je me rappelle que les identités humaines se sont divisées en plusieurs sections. Les Mishpechotam, les Lishonotam, Be'artsotam, les Goyehem. Il y avait des familles qui sont devenues des peuples, des nations. Mais à l'origine, on était des familles. Le fait de devenir une nation, c'est problématique. Pourquoi est-ce problématique de devenir une nation? Eh bien parce que la relation qui unit généralement les nations, c'est la guerre. Oui, les nations se font généralement la guerre, si bien qu'on a besoin de créer une organisation des Nations Unies pour qu'il y ait la paix. Sans ça, on fait la guerre. Alors que dans une famille, même si on n'est pas d'accord, on ne se fait pas la guerre. Lorsqu'on a érigé des frontières, on a de facto mis quelqu'un de l'autre côté de la frontière. Comme l'écrira Albert Camus, l'étranger, à partir du moment où tu as mis en place une séparation entre nous et eux, alors, eh bien forcément qu'il va y avoir friction. Am Israël est appelé Mishpacha, parce qu'il a un rôle à jouer aux yeux du monde, c'est de ramener la dimension familiale des nations. Parce que si entre deux nations, la relation naturelle, c'est la guerre, et il faut se battre pour qu'il y ait la paix, la relation qui unit généralement deux familles, c'est la paix. Entre deux familles, même s'il peut y avoir des tensions, ça va pas. Je t'invite Shabbat, tu m'invites Shabbat. Yébesader. Et la reine, Akadosh Baruch Hu, va dire à Abraham, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. » Redonner aux nations leur dimension de famille. Et c'est pour ça qu'ici, Amos nous parle à nous en tant que famille. Nous sommes une famille. Et donc, ça veut dire qu'on est ensemble, même si on n'est pas d'accord. La névoie ici de Amos nous dit qu'il est temps d'arrêter eux et nous. Il n'y a plus eux et nous, il y a un grand nous. Puisque c'est une seule et même famille. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Iné ! Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu nous transmet en tant que famille d'Israël ? Eh bien, il nous dit « Rak etrem yadati mikol mishpechot ha'adama. » Rak etrem yadati. HaKadosh Baruch Hu yodea otanu, mais juste otanu. Qu'est-ce que ça veut dire « HaKadosh Baruch Hu yodea otanu » ? HaKadosh Baruch Hu lo yodea et kulam. Elama, Akadosh Baruch Hu, mazé la date. La date, c'est ne faire qu'un. Ve'adam yada et chava ishto. La date, c'est donc ne faire qu'un. Akadosh Baruch Hu a décidé de lier son identité à la nôtre. Raketrem yadati. On porte le nom de Dieu dans notre nom à nous. Israël. À tel point que j'ai entendu des gens à Meacharim dire que on ne peut pas dire Israël, on doit dire Israël. Parce que c'est le nom de Dieu. Et sinon, c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Donc il y en a qui disent Israël, il y en a qui disent Israël, il y en a qui disent Israël, mais ça c'est un autre problème. Mazé raketrem yadati. Ça veut dire que le peuple juif, qu'il le veuille ou pas, il est représentant de la parole de Dieu. Veze kaché meod. Aïm ze kedai d'être juif, les amis. Est-ce que ça vaut le coup d'être juif ? Ouah, quelle question ! La vérité, non. Ça ne vaut pas le coup d'être juif. Comment je le sais ? Ben, l'écrasante majorité des gens sur cette planète ont choisi de ne pas être juif. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Alors, mets ton micro et couchiate-moi. Ça arrive pas ? Ah, ils t'ont coupé le sifflet. Eliezer de Lille Mode, est-ce que tu peux... Ah, je ne sais pas si moi je peux. si tu nous entends, si tu es toujours avec nous, est-ce que tu peux nous allumer les micros des gens qui puissent les allumer?
Voilà.
Voilà, Daraba.
Moi, je suis désolée, j'avais compris que les différents peuples de la Terre avaient été créés chacun selon sa spécificité et qu'ils n'avaient pas été créés pour devenir juifs.
Je n'ai pas dit qu'ils avaient été créés pour devenir juifs. J'ai dit que la majorité des gens sur Terre ont choisi de ne pas être juifs. Ben, vadaï. Eh oui, les amis, c'est marqué noir sur blanc dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 10 et 11. Là-bas, nous dit le Talmud, « Kol ma'ase bereshit, le da'atan nivre'u. » Toutes les créatures ont été créées en connaissance de cause. Rashi nous dit, « Sha'alam ha'im rotzim le'ibare, ve'amru hen. » Dieu a demandé à chacune des créatures, est-ce que tu as envie de descendre là? Voilà, tu as envie de créer là maintenant? Ceux qui ont répondu non, ils sont restés des Neshamot là-haut. Ceux qui ont répondu oui, c'est qu'ils sont venus ici. Bah, il y a plus de gens qui ont répondu oui pour être goy que pour être juif. Donc, semble-t-il que c'est plus kedaï d'être goy que d'être juif. En fait, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être idéaliste? La réponse est que l'idéaliste ne pose pas la question. Bevadaï que c'est plus facile d'être non-juif. En shum safek. Rien de tel que de n'avoir comme seule préoccupation de savoir si Karim Benzema va marquer un but pendant l'Euro ou pas. Voilà ce qui préoccupe tous les Français actuellement. C'est facile d'avoir ça comme préoccupation. On n'est pas toujours, c'est pas toujours facile d'avoir comme préoccupation de savoir est-ce que l'Iran, pas l'Iran, est-ce qu'on va réussir à faire un gouvernement, pas un gouvernement, est-ce que Bennett, il va réussir à être de droite, il va pas réussir à être de droite, Zélo Pachout. Et Bichlal, toute la journée, de se demander est-ce que ça c'est cachère, c'est pas cachère, est-ce que c'est la chonara, c'est pas la chonara, c'est Khiloul Hachem, c'est pas Khiloul Hachem. Donc, arbe yoter kal d'être goy. Aval rak etrem yadati. Nous dit Amos, Am Israël, maintenant il a un rôle à jouer. Puisqu'on est les seuls, pour l'instant, à connaître Dieu, eh bien, nous avons un rôle d'enseignant. Vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin, puisqu'on a fait le cours sur Gog ou Magog, et puis on a vu qu'après, c'est bon, tout le monde m'a reconnu, dit Dieu. Mais oui, mais non. Parce qu'il y a une grande différence, vous vous rappelez, entre Vaya Aminu Ba Hashem ou Ve Moshe Avdo et Ve Gam Becha Ya Aminu Leolam. Deux versets à une paracha d'écart. Lorsqu'on est dans la paracha de Béchalach, à ce moment-là, après l'ouverture de la mer Rouge et qu'on est passé, que la mer s'est refermée et qu'a tué tous les Égyptiens, comment est-ce qu'on commence Shiratayam? On dit « Vayaminu ba'ashem, ouv Moshe Avdo ». Donc ça y est, la Emouna, elle est là. Alors comment ça se fait qu'une semaine plus tard dans la paracha de Yitro, il y aura marqué que Dieu dit à Moshe « Vegam becha yaminu leolam » Ça y est, ils ont déjà eu la Emouna. Nous dit le Rambam, dans Ilchot Yesodé à Torah, qu'en fait, la Emouna qu'on avait après la sortie d'Égypte, c'était une Emouna de la sortie d'Égypte, mais elle n'était absolument pas éternelle. Oui, sur le moment, waouh! Mais une fois qu'on a repris le train-train quotidien, il n'y avait plus le waouh, et donc les gens, ils n'avaient plus vraiment la Emouna. Et ce n'est que lorsqu'ils ont entendu Dieu parler à Moshe, que Vegam Bechaya Minololam, parce qu'ils ont vécu le dévoilement. En d'autres termes, Abotai, jusqu'à présent, il n'y a que nous qui avons porté le dévoilement. Donc, même si à la fin de Gog ou Magog, il y a une prise de conscience des nations que Dieu se dévoile, pour que ça soit ancré en elles, il va falloir qu'Am Israël, maintenant, leur enseigne, les rattache avec ce dévoilement. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Mais pour cela, il faut qu'on te rattache à quelque chose de vrai. Eh oui, comment on sait si mon attachement au divin est vrai ou faux? Eh bien, en fait, la raison est très simple. Il y a une grande différence entre la névoie, donc le moment où Dieu parle à l'homme, et ce qu'on appelle en hébreu la chavaya datit, ou l'expérience spirituelle. Aujourd'hui, il y a une grande recherche d'expérience spirituelle. Et les gens se mettent dans des dans plein de situations pour arriver à atteindre une extase spirituelle. Il y a plein de chougim comme ça en Israël et ailleurs. Mais sauf que ça, c'est fondamentalement voué à l'échec. L'âme. Pourquoi est-ce que c'est fondamentalement voué à l'échec? Eh bien, tout simplement parce que la différence entre la névoa et la chavaya datit, c'est que l'un vient du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut. Il y a un verset dans la Torah qui nous parle de chavaya datit, d'une volonté du peuple juif de vivre sa façon à lui de s'attacher à Dieu. C'est lorsqu'ils sont venus voir Aaron et qu'ils lui ont dit « Kum aselanu Elohim asher yelchu lefanenu, kizeh Moshe haish lo yadanu me aya lo. » Le veau d'or, c'est la façon dont nous, nous avons de vouloir nous rapprocher du divin. En d'autres termes, les amis, lorsque tu choisis d'instaurer toi la relation avec Dieu, c'est fondamentalement voué à la Avodah Zara. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, les amis, c'est très simple. Dieu, il est infini. Moi, je suis fini. Si c'est moi qui essaye de m'attacher à Dieu, ben, j'ai une chance sur Ein Sof, sur une infinité de possibilités de tomber sur le bon numéro. Or, en mathématiques, ben oui, c'est combien le numéro de Dieu? C'est quoi le numéro de téléphone de Dieu? Ne me dis pas 26. Et ne me dis pas 55 non plus, il n'est pas tunisien. Le numéro de téléphone de Dieu, c'est Ein Sof. C'est-à-dire que si je m'attache à quelque chose et je dis c'est Dieu, c'est fondamentalement faux. Parce que quelle que soit ma perception du divin, elle est incomplète. Quelle que soit la façon dont moi je m'attache à Ribono Shel Olam, ça ne sera jamais l'entièreté de Ribono Shel Olam. Or, s'attacher à une partie du divin, ça s'appelle en juif Avoda Zara. Pas shoot. Résultat des courses, la seule possibilité pour moi de m'attacher à Dieu, c'est de le faire tel que lui m'a dit de le faire. Ron? En d'autres termes, lorsque j'essaye, moi, de mettre ma connexion avec lui, ça ne marchera pas. Si lui, il se connecte à moi, alors je sais vers qui répondre. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, je le résume en une phrase avec des mots plus simples. Il y a 3 fois par jour des moments où j'essaye d'être en connexion avec Dieu. Ces moments s'appellent la tefila. Je parle à Dieu. Mais à qui je parle? Je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Et c'est un vrai problème parce que si je parle à quelqu'un qui n'est pas Dieu, vous serez d'accord avec moi que si je m'adresse à une divinité, mais ce n'est pas Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Mais le problème, c'est que je ne sais pas moi qui c'est Dieu. Donc comment je vais faire pour lui parler? Ainsi, eh bien, les seuls qui ont le droit de parler à Dieu, c'est ceux qui le connaissent. Dans beaucoup de synagogues, il y a marqué devant l'entrée de la synagogue ou l'entrée du chazan, « Da lifnemi ata omed ». Sache devant qui tu te trouves. Zé a fait méode, mais je ne sais pas, moi. Toi non plus, tu ne sais pas. Bichlal nous dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Beilchot Tefila, que pour pouvoir prier Chassidim Arishonim, Ayou Magim Karov le Maalat Anevoa. Pour pouvoir prier, il faut arriver proche de la prophétie. Comment je sais si je suis arrivé proche? Je ne peux savoir que je suis proche de quelque chose que si le quelque chose en question, je le connais, j'y ai déjà été. À ce moment-là, je peux déterminer si je suis proche ou pas. En d'autres termes, le seul qui a le droit de prier Alpi à Al-Kha, c'est le prophète. Et j'en veux pour preuve, les amis, que dans tout ce livre-là, dans tout le Tanakh, les seuls qui prient, ce sont les prophètes. Pardon ? Eh ben voilà, quelle question extraordinaire ! Et nous alors ? Serais-je en train de vous dire d'arrêter la tefila ? Chas ve shalom ve chalila ve chas. Continuez à prier. Mais la question reste posée. Comment ça se fait que nous, on a le droit? Eh bien, on n'a pas le droit. Mais on prend le gauche. Je vous explique. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de prier. Mais maître, on n'a pas le droit de prier. Mais en fait, on ne prie pas vraiment. En fait, on ne fait que citer ce que les prophètes nous ont dit de citer. La tfila, dans le judaïsme, c'est la Amida. Tfilat ha-Amida. Tout le reste qu'il y a dans le Sidour, qui n'est pas la Amida de Shacharit, Mincha et Ervit, c'est pas la tfila. C'est une préparation à la tfila. C'est se remettre de la tfila. Mais la tfila, c'est la Amida. Or, la Amida a été rédigée par qui? Eh bien, par Anshe Knesset Agedola et parmi eux, les 83 derniers prophètes. En d'autres termes, les prophètes, voyant que la prophétie allait s'arrêter, ont mis tout leur monde intérieur dans la tfila. Résultat des courses, quand moi, j'utilise, je fais la tfila, là, je m'en laisserai, je comprends peut-être pas très bien ce que je fais, mais je sais que je me trompe pas de numéro parce que j'utilise les mots des prophètes. Même si moi, je ne suis pas prophète, j'utilise les mots des prophètes. Ça d'air ? Ok, mais donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on m'a donné la responsabilité, non seulement de la Da'at et Hashem, mais donc également de l'Eyadea et Hashem. Non seulement moi, je dois connaître Dieu, mais je dois également le faire connaître aux autres, pour pouvoir les faire eux aussi redevenir des mishpachot à Adama. C'est ça que Dieu dit à Abraham, « Venivrechou bechakol mishpachot à Adama ». Alors nous dit Amos Anavi, « Rak etrem yadati ». Ok, alors ma osim achav ? Ma osim achav ? Meod pashut. Nous dit le prophète, il continue, je continue dans le verset, dans le chapitre 3 de Amos. Nous dit, Rak etrem yadati mikol mishpachot ha'adama al ken efkod alechem et kol avonotechem. Donc vous êtes, malasot, beaucoup plus responsable de vos actions que les autres. Qui atem yodim? Emlo yodim? C'est vrai, ça, c'est une question qu'on doit se poser tout le temps. Comment ça se fait que nous, on prend tellement sur la tête alors qu'on est tellement plus tzadikim que les autres? Je veux dire, on est le peuple le plus tzadik de l'univers. Sans aucun débat possible. Et qu'est-ce qu'on se prend? Alors que les autres, franchement, c'est pas joli joli et ils n'ont pas les malheurs que nous on a. Il dit oui, mais mal à la sorte, d'après le judaïsme, si tu connais pas la halakha, t'as pas de tour. Donc, les mecs, ils connaissent pas. Nous, on connaît. Nachon. Mais il n'y a pas d'idéal à être ignorant. Et donc, eh bien, nous devons nous aussi leur apprendre. De la même façon que Dieu, par l'intermédiaire de Moshe, nous a appris, nous devons maintenant apprendre au monde entier. Vous allez me dire, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Eh bien, c'est pour cela que je nous emmène cette fois au chapitre 8 de Amos. Toujours donc dans le livre de Amos, au chapitre 8, nous dit le prophète, Iné, je prends, voilà. Shimuzot ha-shoafim shever. Etzira, shoafim evyon la-shbit evne-onearetz, ne-arets. Lemor matai yavor ha-chodesh, ve-na-shbir ha-shever, ve-ha-shabbat, ve-niftech ha-bar, la-aktir eifa ula-agdil shekel, la-avet mozner mirima, ולקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעליים הוא נפל בר נשביר. Le prophète est en train de nous dire que tout va mal. Mais comment tout va mal? Eh bien, regardez ce verset que tout le monde connaît. Iné yamim baim neum Hashem. Mazé. Veishlachti ra'av ba'aretz. Kadosh Baruch Hu nous dit que vient un temps où il est sholeach ra'av ba'aretz. Mais de quel aretz on parle? On ne parle plus de Eretz Israël ici. Ici, on parle de la aretz telle que Habakkuk Hanavi nous l'a présenté. Ve'ashem be'echal kodcho has mipanav kol ha'aretz. Le monde entier, les amis. Ici, Veishlachti Ra'av Ba'aretz, c'est dans le monde entier. Aval lo ra'av la lechem, velo tzama la maim. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où personne ne manque de rien. Est-ce qu'on a atteint cette époque-là? Bien sûr que oui. Vous allez me dire, mais comment tu peux dire ça? Il y a des pauvres, il y a des gens qui meurent de faim en Afrique, il y en a même en France, il y en a même en Israël. Mais ce n'est pas parce qu'il manque de quoi que ce soit. C'est parce que nous, les hommes, on se comporte n'importe comment. Il y a aujourd'hui, Rabotai, suffisamment de nourriture sur cette planète pour nourrir 7 fois la population de la planète. Mais on fait n'importe quoi. Regardez ce qui se passe dans un supermarché. La société de consommation. La surconsommation. Regardez ce qui se passe quand on fait un mariage, une bar mitzvah ou n'importe quoi. Les quantités astronomiques de nourriture qu'on jette. Le concept du restaurant. Alors, je ne dis pas que je suis contre le bar mitzvah, le mariage, le restaurant, je suis pour. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, on a suffisamment de moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de rav l'alechem velotza malamayim. Alors, s'il n'y a plus de cela, si on a enfin réglé le problème matériel, alors vers quoi il faut se tourner, Rabotai? Eh bien, une fois qu'on a réglé le problème matériel, on se tourne vers autre chose. Je reprends le verset. Inei yamim baim, neum Hashem Elohim, veishlachti rav baaretz, lo rav l'alechem. Alors quoi? Ki im lishmoa et divrei Hashem. Vous vous rappelez de notre Abraham qui est parti en Égypte? On a dit qu'il y avait une famine en Eretz Canaan. Mais lui, il est parti en Égypte parce qu'il y avait une famine en Égypte. Pas de pain et d'eau. Mais une famine de lishmoa et divrei Hashem. Lishmoa et divrei Hashem. Agoyim tzmeim, nous aussi, lishmoa et divrei Hashem. Nous sommes dans la génération de la recherche, et c'est fou quand on regarde autour de nous le nombre de gens qui veulent se rattacher à de la spiritualité. chez les goyim et chez nous. Mais pourquoi ils veulent se rattacher? Parce que tout ce qu'ils croyaient comme étant un acquis s'est avéré comme étant complètement faux. Il y a un abandon des structures traditionnelles, des religions traditionnelles, mais dans le même temps, une recherche énorme de spiritualité. Qui est rav lishmo et divrei Hashem. Pashut. Az ma osim? Venau miyam ad yam, u mitzafon ve'ad mizrach. Ma ze? Miyam ve'el yam ad yam, mitzafon ve'ad mizrach. Yeshotetu levakesh et devar Hashem. C'est quoi ça? De la mer jusqu'à la mer, au nord, à l'est. Alors ça a une vocation intérieure pour Israël, parce que quand on dit de la mer à la mer, ça fait référence à la mer Méditerranée et la mer rouge, qui n'est pas rouge, et à l'est, c'est le Jourdain, et au nord, eh bien, c'est le nord d'Israël, la frontière avec le Liban. Donc ça a une connotation intérieure au peuple juif, mais c'est vrai aussi dans le monde entier. De l'océan jusqu'à l'autre océan, du nord au sud. Kulam meshotetim limtso et dvar Hashem. Aval ma ze dvar Hashem? Yesh divrei Hashem ve yesh dvar Hashem. C'est pas la même chose. Quelle est la différence entre dvar Hashem et divrei Hashem? Divrei Hashem, ze nevoa. Le lokol safek. Mais Dvar Hashem, le Talmud à Yerushalmi, nous donne une machloquette. Mazé Dvar Hashem. Trois avis sont proposés dans le Talmud. Trois avis. Premier avis, Dvar Hashem, c'est Halakha. C'est-à-dire, tant en Israël que Bechutz à la Haaretz, Mevakshim la Da'at est à Halakha. On veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième avis, Dvar Hashem, c'est Aketz, Ageoula. C'est-à-dire, on veut savoir quand arrive la Geoula. Troisième avis, Anevoa. Nous dit le Rav Kook qu'en vérité, il ne s'agit pas de trois avis différents, mais il s'agit d'un processus de l'histoire. Bagalut, Meshotetim et Dvar Hashem, c'est « on veut savoir la halakha ».« Kiyotzim migalut »« Rotzim la dat »« Matay ve'ech »« Comment on sort de galut et qu'on arrive en geoula ?»« On veut savoir comment on arrive à la quête. » »« Et quand on est arrivé à la quête, on veut savoir, yalla, il est temps que la névoa, elle revienne. »« Vezeu. » Meshotetim et Dvar Hashem velo yimtzaou. Waouh! Lo yimtzaou! Lama lo yimtzaou dans un premier temps? Pashut! Lo yimtzaou parce qu'ils ne cherchent pas comme il faut. C'est-à-dire que tu vois dans le monde entier, les gens, ils cherchent, et ils arrivent à un point de non-retour. Et ils arrivent au bout du cul-de-sac. Parce que Meshotetim limtso et Dvar Hashem. Mais il ne le cherche pas là où il faut. Alors où est-ce qu'il faut le chercher? Ve'alechu amim rabim. Ve'ameru bo'u na'ale el har Hashem el bet Elohei Yaakov ve'yorenu midrachav ve'nelcha be'orchotav. Ki mitzion tetzé Torah u'dvar Hashem mirushalayim rabotai. Tu veux trouver et dévoiler que HaKadosh Baruch Hu te parle et tu veux savoir ce qu'il veut de toi? Viens à Jérusalem pour apprendre ça. Viens apprendre ça de Am Hashem. Rabotai, nous sommes la génération, nous sommes dans la prophétie qui est en train de se réaliser. Nous sommes Amos. Nous sommes la génération où il y a cette recherche. Et c'est plus seulement une recherche de Torah. Zebamash au-delà de ça. Les gens veulent Dieu. Ils essayent de chercher par eux-mêmes, Chavaya Datit, l'expérience spirituelle. Ils n'y arrivent pas. et tout le monde a les yeux tournés vers Jérusalem, vers Amisraël, pour qu'il ait quelque chose à dire. Pour qu'enfin, il puisse enseigner au monde comment est-ce qu'on peut faire pour être eux aussi une nation qui connaît Dieu. Et les nations du monde ne savent pas comment demander, mais ils n'arrêtent pas de demander. Je vous ai dit tout à l'heure, même si je suis très, mais alors très critique par rapport à notre gouvernement, et même si je vous le dis, je suis très, mais alors très déçu d'avoir voté pour quelqu'un qui m'a menti, d'un autre côté, oui, monsieur Nakache, il faut mettre votre micro parce que il y a le bras qui bouge, il y a les lèvres qui bougent. Vous voulez dire quelque chose, mais je ne vous entends pas.
Oui. J'ai entendu pendant toute ta campagne, justement, les gens demandaient à voter Yamina. Et j'ai eu une discussion avec ces gens-là et je leur ai dit quel le résultat qu'il y a aujourd'hui, monsieur.
Eh bien, vous avez été plus intelligent que moi. Vous avez été plus intelligent que moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sert à quelque chose d'avoir des poils blancs.
C'est une question de clairvoyance.
Bah, bon, appelez ça clairvoyance. C'est parce que peut-être que votre barbe...
Il a fait déjà l'expérience avec...
Donc, c'est ce que je vous dis. Votre barbe est plus blanche que la mienne. Vous avez donc plus de clairvoyance et d'expérience que moi. Enfin, je vais vous dire, la vérité, c'est que on n'aurait pas pu prévoir un truc comme ça. Peut-être qu'on aurait pu penser qu'il allait faire un sale coup à Bibi. Mais de là à faire ce qu'il a fait, ça enfin, je pense pas qu'il y ait personne qui ait pensé à la base.
Pré-électoral, je regrette, il y a eu des accords pré-électoraux dès qu'ils ont annoncé les élections. Je sais pas, vous avez pas fait.
Non, mais oui, non, mais attendez, les accords pré-électoraux ne contenaient pas ni Meretz, ni Avoda, ni Ram. Absolument pas. Mais, c'est pas le débat. Je dis que vous avez raison. Si j'avais su ce qui se passait, j'aurais certainement pas voté pour lui. Mais, et là je dis mais, comme j'ai dit, je suis très critique par rapport à ce nouveau gouvernement. Et je suis très déçu qu'on m'ait menti. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire, on verra. Dans la mesure où il est évident que ça fait partie du projet divin, et il est évident que Gamzou le Tova, et il est évident que quelque chose de bien va sortir de tout ça, ne serait-ce que les choses vont maintenant bouger. Et je dis, je ne suis pas prophète, moi je n'arrive qu'à analyser les prophéties qui se sont réalisées, je ne peux pas en faire des nouvelles, mais je me dis, et je vous l'ai dit au début, moi, je trouve quand même dans toute cette histoire, alors ça peut être aussi un grand Chilul Hashem, mais j'ai envie de donner le bénéfice du doute et de dire que quand même, c'est la première fois depuis David ou Shlomo, depuis Chizkiyahu Melech Yehuda, depuis Shimon Achashmonaï, que le chef du peuple juif se revendique comme étant Yireh Shamaim ou Mechouyav la Torah. Je ne rentre pas dans les tzitziot des gens. Je ne rentre pas dans les tzitziot des gens et je ne rentre pas dans la question de « il est pratiquant comme ci, pratiquant comme ça », ça ne me regarde pas. Chacun, je ne vais pas juger la pratique de chacun. Mais il se revendique comme étant quelqu'un pour qui « Akadosh Baruch Hu, Zechashuv, Vatorah, Zechashuv ». Officiellement, il est chômer Shabbat, il mange kasher, il fait Tarat HaMishpacha, il étudie la Torah. Officiellement, je ne sais pas ce qui se passe dans son intimité, ça ne me regarde pas. Mais on va avoir, je ne sais pas quand, mais on va avoir un jour notre Premier ministre qui sera invité à l'ONU, qui sera invité à la Maison Blanche. Eh bien, de voir le représentant d'Israël avec une kippa sur la tête aux yeux du monde, Zegadol. Zegadol et Kadosh, même si il faudra quand même critiquer là où il faudra critiquer. Mais il est évident que peut-être que c'est en train de servir à ce processus où les nations nous regardent et veulent apprendre de nous comment on s'accroche et s'attache à Kadosh Baruch Hu. Peut-être que je me trompe et qu'au contraire, il va faire avec une kippa beaucoup de Hiloul Hashem, je n'en sais rien. Mais je dis que l'image est déjà très forte. L'image est déjà très forte et il est évident que nous sommes la génération qui le plus a besoin de cette identification avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. Les nations le demandent, Am Israël le demande, même s'il ne sait pas que c'est ça qu'il demande. Mais en vérité, c'est ça qu'il demande. Et c'est ça que nous dit Amos. Après Gog ou Magog, après avoir réglé les problèmes de l'extérieur, nous devons régler les problèmes intérieurs de l'humanité. Et les problèmes internes de l'humanité, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, eh bien, il va être fondamental que nous prenions part à cette époque extraordinaire dans laquelle nous pouvons, eh bien, faire connaître Dieu aux yeux du monde. Il semblerait que c'est le seul moyen pour que la fulgurance de Veit Gadilti, Veit Kadishti, eh bien, puisse rester dans le temps, dans l'éternité, et que Behemet, Vaya Bayom Ahu, Yeh Hashem Echad, Ushemo Echad, Lekol Aolam, Kulo, Toda Rabba, Lekulam. Est-ce qu'il y a des questions?
Shalom Rav, je suis Simcha.
Shalom.
Shalom, je voudrais savoir, je vous ai entendu dire que la seule qui est défilée, la seule défilée, c'est la Mida.
Tout à fait.
Pardon?
Oui, oui, tout à fait.
Ok. Mais la Mida, ce sont les hommes qui la font. Pour les femmes, ce n'est pas du tout obligatoire.
Est-ce que vous voyez l'ouverture de mes yeux? Mes yeux sont béants et ouverts. Mais pourquoi dites-vous cela?
Mais c'est parce que je l'ai dit, je l'ai entendu, ce que m'ont dit d'autres femmes, que les femmes, on n'est pas obligé de le faire.
Ah, bah alors, je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas dénigrer la vie que vous avez entendue. Ce que moi, j'ai appris... du Rambam que du Shulchan Aruch des poskim d'aujourd'hui, les dames, les femmes sont mechouyavot également de la tefila. Par contre, là où il y a machloket, c'est de savoir est-ce qu'elles sont mechouyavot d'une tefila par jour ou de plusieurs. Mais une tefila, c'est oui obligatoire. Donc, au moins une tefila, c'est oui obligatoire.
Mais une fois au minimum,
c'est OK. Bah donc, il faut faire la Amida, alors.
Non, d'accord, mais moi, on me disait que non, mais moi, je le faisais quand même, et je me disais...
Oh. Alors, faites, c'est très bien, faites, il faut faire.
Ah, mais heureusement, alors,
toda rabarra,
je me libère.
Bah, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon, oui? Non? Pas de questions? Ok. Eh bien, les amis, Chazak ou Baruch, et à la semaine prochaine.